Bonjour à tous. Heureux d'être avec vous, avec mon épouse Christine, et heureux de voir des visages bien connus, des visages moins connus. Et donc, nous nous réjouissons de continuer à être à vos côtés à l'église de Carpentras et moi-même d'être à vos côtés pour, vous encourager à avancer, à grandir, à vivre votre foi et à donc avoir ce témoignage dans cette ville et ses environs. Témoignage important car nous avons notre Dieu qui est notre Père, qui est notre Sauveur en Jésus-Christ. Et je me réjouis ce matin de pouvoir encore vous apporter donc ce message. Nous lirons dans l'Évangile selon Luc et nous allons ouvrir les deux premiers chapitres. Ce message que je vais vous donner ce matin pourrait être aussi bien donné dans la période de Noël comme dans la période de l'Avent. Et donc, nous sommes le premier dimanche de l'Avent et je vais vous encourager à faire de cette période une période où nous pouvons encore plus nous rappeler combien nous avons un Sauveur, un grand Sauveur en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lirons deux textes qui sont assez connus, nous connaissons assez bien ces deux chapitres de Luc, mais nous allons nous rappeler, il aurait été heureux de lire même pratiquement les deux chapitres, mais là il aurait fallu qu'on prenne alors tout le temps de la prédication, et je ferai appel à vos connaissances bibliques et à vos Bibles, parce que vous allez les garder ouvertes, et de temps en temps je vous donnerai une référence, vous pourrez regarder dans la référence ce que je vous dis. Luc 1, versets 26 à 38, c'est l'annonce de la naissance de Jésus à Marie. Luc 1, verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth chez une vierge, fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Voici la servante du Seigneur qui me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Puis nous lisons dans le chapitre 2 un texte autant connu qui est la compagnie des bergers. Donc ce texte que nous aimons beaucoup nous rappeler dans ce temps de Noël aussi. Il y avait dans cette même contrée, verset 8, excusez-moi, Luc chapitre 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. » Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bénis maintenant ce temps, Seigneur. Nous avons besoin d'entendre ce que tu veux nous dire. Et je te prie que par ta parole, tu nous parles et que ceci nous encourage à être, oui, ces enfants de Dieu que tu attends d'avoir, qui sont attentifs, qui sont désireux de te connaître et de savoir quel grand salut tu leur as donné, et aussi désireux de manifester leur reconnaissance et leur louange. Conduis ce temps. Amen. Donc on est aujourd'hui le premier dimanche, c'est toujours difficile, on est encore en novembre, et pourtant on est le premier dimanche de l'Avent, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut saisir l'occasion, dans les 4 semaines qui sont avant le jour de Noël, d'avoir un temps de réflexion sur ce que la venue du Christ nous apporte. C'est souvent un temps propice, cette période peut avoir comme vertu justement de pouvoir centrer nos pensées sur les grâces que nous recevons en notre Sauveur Jésus, sur ce que nous recevons en lui et qu'il nous invite à recevoir. Et dans cette période, les messages sur le sujet de la venue du Messie puisent souvent leur source d'inspiration dans les récits de la Nativité que nous trouvons donc en début de nos évangiles, Luc, Matthieu et Jean. Et je vous propose ce matin de regarder quelques-uns de ces textes dans l'évangile de Luc, vous l'avez compris, et de voir que déjà nous y trouvons clairement ce que Dieu veut nous donner par son Fils, afin que nous ne nous en privions pas tout le long de notre marche avec lui. On va voir justement que les points que je vais soulever sont des points qu'on retrouve dans le ministère de Jésus, dans sa personne, dans ce qu'il va apporter. Dans son ministère. Et il est beau de voir que, dès le départ, c'est clair. Le Seigneur vient et il se proclame pas, les hommes vont pas le proclamer plutôt pour dire voilà, tu es cela. Mais dès le départ, même avant son départ, on l'a vu déjà avec certaines prophéties qui ont été citées, mais on n'y reviendra pas. Mais dès le départ, donc, c'est clair, le Seigneur nous dit, voilà qui est celui qui vient. Et voilà ce qu'il va vous apporter. Et voilà ce à quoi vous pouvez vivre, ce que vous pouvez vivre avec lui. Alors, c'est tout un programme, c'est tous les évangiles, c'est toute une vie et une foi. Et ce que je vais vous dire ici va se résumer à des thèmes assez généraux. Donc, sinon, il faut faire une série. Et là, vous en avez pour 10 ans. Et même plus, toute une vie. Alors, je vais souligner ce matin 4 points. Vous avez reçu une feuille avec au dos 4 points pour nourrir notre foi. Donc, 4 points qu'on retrouve dans les récits, dans ce récit de Luc 1 et de Luc 2, et qui, je crois, alimentent notre foi, qui sont importants pour notre foi. Le premier point que nous retrouvons dans ces passages, donc en Luc 1 et 2, et que nous devons garder dans nos cœurs, parce que c'est ce qui alimente notre foi, c'est ce qui nous donne une bonne approche de notre Seigneur, c'est qu'avec la naissance de l'homme Jésus, nous avons bien reçu la venue d'un parfait sauveur. C'est bien un parfait sauveur que Dieu nous donne en Jésus-Christ, puisqu'il est bien le Seigneur, le Fils de Dieu et le Christ, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Et là, nous le voyons bien dans les récits de la Nativité. Luc mentionne à 2 reprises les manifestations d'anges avec leur message. Et c'est dans leur message que l'on trouve beaucoup d'indications sur qui est l'enfant donné, sur cet enfant qui va naître. On l'a lu, un ange apparaît à Marie, l'ange Gabriel, Et il lui révèle, et il nous révèle aussi, que le fils qu'elle enfantera devra s'appeler Jésus. Rien de nouveau, nous le savons, hein, si nous connaissons la Bible, si nous avons cheminé depuis longtemps avec le Seigneur Jésus, avec notre Dieu. Et ce nom est attaché, avec ce nom va être attaché quelques attributs. Et entre autres, donc, il sera grand. Hein, Luc 1, verset 32. Il sera grand. Et effectivement, c'est remarquable de voir que les gens qui ne sont pas croyants, qui ne font pas trop cas de l'œuvre et de la personne de Jésus, sont souvent prêts à reconnaître que Jésus a été un grand homme dans notre histoire de l'humanité. C'est un grand homme. Hein. Mais l'ange nous donne quand même une autre indication qui nous éclaire sur ce qui fera la grandeur de Jésus. C'est qu'il sera appelé le Fils du Très-Haut. Et ça, c'est important, le Fils du Très-Haut. Et à la suite, l'ange ajoute qu'il sera appelé le Fils de Dieu, qui est clair ce que ça veut dire, ce Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu, chapitre 1, versets 32 et 35. Cette identité de Jésus dévoilée ici le distingue alors nettement du commun des mortels, même des plus grands de ce monde. Hein? Fils de Dieu, Fils de Dieu. Jésus n'est pas seulement Fils d'homme en étant Fils de Marie. Il est avant tout Fils de Dieu. Et de ce fait, il ne tire pas ses origines de Marie, et ni d'une union entre un homme et une femme. Il est avant, il existe avant de s'incarner par une opération du Saint-Esprit en Marie. Et cette naissance miraculeuse utilisée par Dieu pour nous donner son Fils est aussi mentionnée dans un passage que seulement l'évangéliste Matthieu, donc là j'en appelle à votre connaissance, que Matthieu rapporte, où il est aussi question d'apparition d'anges, mais là, c'est donc dans le songe à Joseph, et ceci pour le rassurer de ce qui arrive à sa fiancée Marie, et aussi de le stopper dans son projet d'abandon de Marie, parce qu'elle était enceinte. Là encore, l'ange lui explique que l'enfant a pu être conçu en Marie par l'Esprit Saint et que cet enfant n'est pas n'importe quel enfant, car il aura pour nom, en plus de celui de Jésus, le nom d'Emmanuel, hein, Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous », Matthieu 1, verset 23. Il est donc bien le parfait sauveur que nous avons besoin, car il a été donné par Dieu et il est le Dieu lui-même en étant Fils de Dieu. Il est le Seigneur dont il est encore question dans la deuxième apparition d'ange que Luc signale, que nous avons lue, celle au berger de Bethléem. L'ange a ici pour mission de leur annoncer cette bonne nouvelle, hein, cette bonne nouvelle de la naissance d'un Sauveur, et d'ajouter sur lui qu'il est le Christ, le Seigneur. Hein, le Christ, l'envoyé de Dieu, le Seigneur, le titre céleste. Voilà le message qui accompagne la venue de notre Sauveur et que nous devons garder dans notre cœur. Il est bien notre Sauveur, pourquoi ? Parce qu'il nous a été donné par Dieu et qu'il est le Dieu, le Fils, Dieu le Fils incarné, venu pour nous sauver. Son salut est possible puisqu'il est Dieu. Et là, je vous dis, vous pourriez avoir une série de je ne sais pas combien de messages sur ce que je viens de vous dire. Hein. Mais voilà, tel est notre grand Sauveur. Telle est la bonne nouvelle que nous avons pour nous et que nous pouvons partager, la bonne nouvelle de Noël. Oui, dès le début, Jésus a été désigné comme le Sauveur, puisqu'il pourra nous sauver, étant le Fils de Dieu, envoyé de Dieu. Voilà le premier point que, je crois, nous avons fortement appuyé dans ces deux chapitres de Luc 1. Le deuxième point que nous retrouvons dans ces passages et que nous devons garder dans nos cœurs pour entretenir notre foi, c'est que ce Seigneur Sauveur, qui est Jésus, vient pour nous délivrer. Alors vous allez dire, s'il est sauveur, c'est qu'il délivre. Mais justement, c'est clairement encore bien souligné. Ça va, en fait, ensemble. Hein, donc, hein. Il vient pour nous délivrer, il vient pour nous libérer. L'enfant qui naît dans une étable porte bien son nom donné par Jésus. par Dieu, pardon, Jésus, qui signifie le Dieu qui sauve, le Sauveur, car le Seigneur Jésus est bien notre Sauveur qui vient nous sauver, donc de quoi ? D'une situation où nous étions en péril. Sinon, on n'est pas sauvé. Hein, on n'a pas besoin d'être sauvé s'il n'y a pas une situation en péril. Ce salut donné par Jésus est présenté comme une délivrance, comme une libération. C'est le cantique du père de Jean le Baptiste, Zacharie, qui a principalement pour thème ce salut délivrance. Et quand on le lit, en le parcourant au premier chapitre de l'évangile de Luc, on lit que le Sauveur est celui qui nous libère, qui nous visite pour nous racheter, pour nous accorder une pleine délivrance. Et là, il est pour Zacharie, il y a cette vision qu'avaient les Israélites à ce moment-là, qui donc croyaient aussi qu'il allait y avoir une délivrance donc des ennemis terrestres. Hein, donc, et il en est question ici de la délivrance de nos ennemis, dira Zacharie, de ceux qui nous haïssent. Hein. Mais vous savez, le premier à nous haïr, c'est le diable. Et c'est pourquoi cette délivrance-là est la première pour laquelle le Seigneur Jésus est venu. Cette délivrance est en rapport avec le salut qu'il nous donnera en nous accordant avant tout le pardon des péchés et en éclairant nos ténèbres par sa lumière. Il aura pour effet de nous conduire sur le chemin de la paix. Luc 1, verset 60, dans les versets 67-79, là j'ai pas été précis, j'aurais dû le regarder. C'est pourquoi ce qui fait que l'annonce de l'ange au berger est une bonne nouvelle, c'est qu'elle a pour message qu'il nous est né un sauveur dans la ville de David, un sauveur envoyé par Dieu, le Seigneur, Luc 2, verset 11. Et cette nouvelle est bonne car elle annonce la délivrance. La délivrance. C'est cet enfant qui permettra le salut, qui sera présenté à tous les peuples et qui pourra les éclairer comme l'affirme Siméon au temple en ayant l'enfant Jésus dans ses bras, Luc 2, verset 30 à 32. C'est lui qui sera la rédemption de Jérusalem, au dire d'Anne, la prophétesse, Luc 2, verset 38. Oui, c'est ainsi, nous ne devons pas l'oublier, que Jésus nous sauve en nous accordant le pardon de nos péchés, ces péchés qui nous emprisonnent dans une vie sans Dieu et qui nous font tant de mal. Jésus nous délivre des ténèbres de la mort. Il nous libère de l'emprise de notre ennemi, le diable. Et c'est à nous alors de venir et de nous maintenir en lui pour ne plus laisser aucune emprise mauvaise sur nous, pour être libre de tout ce qui peut nous nuire. Oui, notre Seigneur Jésus est bien le parfait Sauveur qui vient pour nous libérer. Et nous devons aller à lui et rester avec lui. Et là, je voudrais juste, je ne l'ai pas marqué sur mes feuilles, donc je m'écarte un peu, une pensée qui me vient à l'esprit, vous dire quelque chose aussi. C'est qu'il peut arriver dans notre cheminement de commencer à, voilà, notre amour tarit un peu, on commence à être un peu moins zélé pour le Seigneur, c'est la sécheresse, c'est le désert. Et malheureusement, dans ce temps-là, des personnes vont même des fois plus loin. Elles se détournent. Hein, donc, elles disent pas qu'elles ne croient plus, mais elles se détournent et elles vivent une vie qui ne tient plus compte que Jésus est leur Sauveur. Quand vous avez une vie et vous ne tenez plus compte que Jésus est votre Sauveur, vous considérez que vous avez plus besoin de lui. Vous considérez que vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas en péril. Et je crois que nous devons garder cela à l'esprit. C'est que sans Jésus, nous sommes dans une situation en péril. Alors certes, le monde va faire tout pour nous occuper et tout le reste, mais nous serons dans une situation où le péché pourra arriver assez rapidement, où nous pourrons être entraînés par l'esprit de ce monde, où nous pourrons nous éloigner encore plus de Dieu. Nous avons besoin de Jésus. Et nous avons besoin de nous rappeler que lui nous libère et que c'est vital pour nous. Lui nous libère, c'est vital. C'est vital. Alors allons à lui. Restons avec lui afin d'être libres et afin de vivre et de plaire à notre Dieu. C'est important pour nous. Faire la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait pour nous. Voilà un deuxième point que nous retrouvons dans Luc 1 et 2. Point important. Troisième point que nous retrouvons dans ces passages et que nous devons garder dans nos cœurs, c'est que ce Seigneur Sauveur qui est Jésus veut nous donner avec le salut quelque chose de très important, cette libération, cette délivrance, mais aussi il veut nous donner sa joie et sa paix. Oh, c'est précieux, que c'est précieux. Enfin, je pense que vous pourriez tous dire cela, hein, je crois. Hein. C'est précieux, la paix de Dieu, la joie de Dieu, la joie de Dieu, que le Seigneur Jésus nous donne. Dieu veut nous donner la joie et la paix, et il nous invite à les recevoir dans le salut que notre Sauveur nous donne. Car le Sauveur Jésus est la source de cette joie par ce qu'il est et par ce qu'il a fait, par ce qu'il fait, pardon. Cette source de joie et d'allégresse est telle que nous lisons que même l'enfant que porte Élisabeth tressaille dans le sein de sa mère en entendant la salutation de Marie. C'est intéressant ce détail. J'aime beaucoup ce détail. Donc, hein, un enfant qui tressaille, je ne sais pas, si vous, mesdames, vous avez une fois eu votre enfant que vous avez porté, si vous avez porté un ou plusieurs enfants, qui d'un coup vous avez senti qu'il était heureux, qu'il tressaillait. En tout cas, Élisabeth l'a senti. C'était quelque chose, je crois, extraordinaire, assez exceptionnel, quoi. Donc, oui. Quand Marie l'a salué, portant l'enfant Jésus, hein, c'est pour ça que l'enfant tressaille. De même, Marie, a son esprit dans l'allégresse en Dieu parce qu'il est son sauveur. Luc 1, verset 47. Et après la naissance de son fils Jean, Zacharie prophétise et donc ce cantique, il donne ce cantique et il le commence en bénissant Dieu de ceux qu'il a visité et racheté son peuple, et il le termine en affirmant qu'il est venu, je cite, « éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Luc 1, verset 79. C'est aussi l'épisode des bergers, avec les bergers de Bethléem, qui nous donne cette indication sur le fait que la venue de Christ est accompagnée de la joie que Dieu veut nous donner par son Fils. L'ange qui leur apparaît porte le message de la naissance du Sauveur qui est, dit-il, l'annonce de la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tous les peuples. Luc 2, 10. Et c'est de cette grande joie que Dieu veut nous donner en son Fils. Oui, cette grande joie. Ajoutons encore que dans les jours qui suivirent la naissance de Jésus, Luc rapporte cette rencontre de cet homme pieux qu'est Siméon, un homme âgé. Et à la vue du petit enfant Jésus, il bénit Dieu et le remercie d'avoir vu son salut et qu'il peut maintenant partir comment ? En paix. Cette paix que l'on reçoit devant notre Sauveur Jésus. Donc, il est bon de se rappeler que notre Seigneur Jésus, en nous donnant son salut, nous donne sa joie et sa paix que seul lui peut nous donner. Quelles que soient les circonstances, alors croyons en lui. Mettons en lui notre confiance. Venons à lui pour recevoir ce baume apaisant et cette joie que nous avons bien besoin pour notre vie. Ne nous en privons pas. Et chaque fois que vous avez quelque chose que vous vivez qui vous enlève la joie et la paix, alors venez à Dieu, venez à Jésus. Et dites à Jésus, je sais que là il y a un enjeu. D'abord que je ne lâche pas ma main, que je vive cela avec toi, mais aussi que je reste dans la tranquillité et le repos que toi seul tu peux donner. Troisième point, le Seigneur nous donne sa joie et sa paix. C'est dit clairement, et le Seigneur dira, je vous donne ma paix, hein, je vous donne ma joie parfaite. Quatrième point que nous retrouvons dans ces passages et que nous devons garder dans nos cœurs, c'est que Dieu nous a donné le salut par le Seigneur et Sauveur Jésus pour que nous le louons et l'adorions. Ainsi, Marie exalte le Seigneur en proclamant ce que Dieu va faire à son égard et envers ceux qui le respectent. Luc 1, verset 47 à 50. Cette louange et adoration qu'il attend de nous, Dieu l'attend pour qu'elle s'associe à celle, vous remarquerez dans l'épisode des bergers, de la multitude de l'armée céleste qui loue et glorifie Dieu, oui, pour le don du Sauveur en proclamant un Gloria, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Luc 2, verset 14. Ça loue là-haut, hein. Ça loue. Oui. Et on est invité à louer aussi Dieu et à l'adorer. De même, les bergers sur la route du retour à leur contrée, devant un tel salut offert par Dieu à travers l'enfant Jésus, ne peuvent que, nous dit le texte, le glorifier et le louer pour ce qu'ils ont vu et entendu au sujet de ce Sauveur. Verset 20, Luc 2. Puis on voit que dans les jours qui suivirent la naissance de Jésus, là encore, Siméon, cet homme qui attendait la venue du Messie, est averti par l'Esprit qu'il le verrait. Alors il va se rendre au temple, hein, on connaît son histoire, à la rencontre de Marie et Joseph, qui étaient là pour circoncire le bébé Jésus. Et prenant alors dans ses bras celui qui allait apporter le salut et son salut, Siméon ne peut que bénir Dieu. Verset 28, Luc 2. Cette louange alors est suivie par celle de la prophétesse Anne, qui avait entendu depuis de longues années le jour où elle verrait son Sauveur, et alors le voyant, elle ne peut que elle aussi louer Dieu en parlant de lui à ceux qui attendaient comme elle leur rédemption. Verset 38. Ainsi Dieu nous a donné son Fils, notre Sauveur, pour que nous devenions ses adorateurs en esprit et en vérité. Et notre Sauveur et le salut offert sont tels qu'ils ne peuvent que nous conduire à ouvrir nos cœurs pour louer et adorer celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le sang de son Fils Jésus, le Christ, lui qui a fait de nous ses participants à son royaume et ainsi ses proches, ses enfants, qui le servent par amour parce qu'il les aime. Alors combien il est bon que nos lèvres manifestent ce que nous avons dans notre cœur en louange et adoration. Et c'est salutaire. J'aime beaucoup cette approche de la foi. J'ai pas encore trouvé quelque chose qui me fait contredire ce que je vais vous dire là. C'est que chaque fois que nous donnons quelque chose à Dieu, et là nous donnons gloire à Dieu, louange à Dieu, nous recevons quelque chose. Chaque fois. Il n'y a rien que Dieu reçoit qui ne soit pas aussi pour nous. Donc quand nous adorons, quand nous sommes des adorateurs, quand nous sommes des enfants reconnaissants que nous louons Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Alors vous savez, il y a des fois la petite distinction, nous adorons Dieu pour ce qu'il est et nous louons Dieu pour ce qu'il fait. Mais c'est pas si net que ça, enfin, Marc-Étienne vous dira ce qu'il en pense une autre fois peut-être. Je pense qu'aussi on peut louer Dieu pour ce qu'il est. Mais voilà, donc souvent nous louons Dieu pour ce qu'il fait. Et donc quand nous sommes dans cette reconnaissance et cette adoration, c'est salutaire pour nous. Pourquoi ? Parce que déjà, donc, ça vient de notre cœur. C'est-à-dire, nous sommes en train de dire quelque chose dans cette union, dans cette relation avec le Seigneur. Donc, nous sommes unis avec le Seigneur dans cette adoration et cette louange. Et puis, quand nous proclamons, que ça soit dans notre cœur, mais j'aime beaucoup aussi que ça soit de notre voix, donc, notre louange et notre adoration, nous la disons aussi à nous. Quand je dis Dieu, tu es mon Seigneur, tu es le Dieu éternel, le Créateur, tu tiens toutes choses entre tes mains, je me le dis aussi à moi. Je me fortifie dans ma foi. Et bien sûr, quand je le dis à haute voix et dans l'assemblée, je fortifie mes frères et sœurs. Donc, je crois beaucoup que le Seigneur, qui veut que nous soyons des adorateurs et des enfants reconnaissants, donc, nous veut aussi que ça soit pour sa gloire, bien sûr, mais que ça soit aussi pour notre bien, pour notre bien. Oui, quoi de mieux que d'être une chose, comme nous le chantons, mais ça vient aussi d'un texte biblique, une chose, c'est d'être devant toi, c'est de pouvoir donc te dire que je t'aime, que je te loue, que je t'adore. C'est important. Alors oui, ne nous lassons pas de regarder celui qui est devenu l'agneau immolé, notre Sauveur Jésus, afin d'ouvrir nos cœurs pour bénir notre Dieu. Alors je vais conclure. Marie entend le témoignage des bergers sur l'apparition et la révélation de l'ange au sujet de Jésus. Luc signale alors qu'elle conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Luc 2, verset 19. Et nous aussi, nous avons pour nourrir notre foi, à repasser. Il est bon que nous repassions dans notre cœur, dans nos cœurs, ce que nous devons conserver sur notre Sauveur et sur son salut qu'il nous offre par grâce. Salut que nous avons en lui. Parce qu'il est bien, oui. Il est bien le Fils de Dieu incarné, venu pour nous, pour nous sauver. Il est bien le parfait Sauveur qui vient nous libérer. Il est bien le parfait Sauveur qui veut nous donner la joie et la paix. Il est bien le parfait Sauveur qui suscite notre louange et notre adoration afin que nous vivions avec Dieu. Alors, oui, n'hésitons pas, allons à lui et restons avec lui. Père éternel, je veux te bénir pour le don de Jésus. Je te bénir pour ta parole qui nous montre que, oui, déjà, dès l'origine, nous n'en avons pas parlé, mais nous pourrions aussi le voir, tu as prévu, en nous créant et puis en acceptant cette liberté qui nous a amené à mal nous en servir, cet éloignement, tu as prévu un salut pour nous, parce que de ton désir éternel, c'est de nous avoir avec toi. Et pour cela, tu nous as donné Jésus. Nous te bénissons pour ce parfait Sauveur. Nous te bénissons parce que en lui, nous pouvons venir à toi. En lui, nous pouvons voir la vie. Et tu nous as encore rappelé qu'en lui, nous pouvons avoir cette paix, cette joie, tellement nécessaire pour nous, pour notre vie. Et puis, Père, reçois notre adoration et notre louange. Tu es notre Dieu et notre Père, en Jésus-Christ, notre bon Seigneur et Sauveur. Amen.